Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sécurité privée, La Ligne Rouge.
Bonjour et bienvenue sur le blog de la sécurité privée, notamment le podcast La Ligne Rouge. Aujourd'hui, je reçois le député Julien Rancoul, qui est député de la 3e circonscription de l'Aude depuis juin 2022. Il est actuellement en activité en formateur SST, non ? Vous avez cette activité-là ?
Oui, tout à fait, formateur indépendant, SST et sécurité incendie.
Sécurité incendie, vous avez été 8 ans dans la sécurité privée, donc c'est pas mal comme durée au sein de la sécurité privée. Vous avez pu voir un peu l'ensemble des palettes en sécurité privée. Vous avez passé du coup, de base quand vous étiez jeune, vous avez voulu intégrer la sécurité privée avec votre bac pro sécurité prévention. Ça s'est fait en 3 ans, non ?
Voilà, exactement. Après le collège, donc j'ai fait ce bac professionnel. Parallèlement à ça, j'étais pompier volontaire aussi à 16 ans.
Donc je voilà, le SPV. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous avez fait une VAE de chef d'agrès. Donc ça, c'est via pour faire une reconnaissance du CIAP 2, non ?
Non, c'était une formation interne au SIS. Donc j'ai passé.
D'accord.
J'ai passé les qualifications, enfin, j'ai évolué en grade depuis donc mes 13 ans d'engagement.
D'accord, 13 ans.
Voilà, aujourd'hui je suis au grade d'adjudant depuis le 1er décembre.
D'accord. Dans ces 8 ans dans la sécurité privée, vous avez fait principalement de l'incendie, non ? Parce que vous étiez SPV, vous avez fait aussi de la sûreté ?
Non, j'ai fait quand même, sur les 8 ans, j'ai bien fait 5-6 ans de sécurité, de sûreté, plus que de sécurité incendie. J'étais donc principalement sur des types M, enfin, tout ce qui est magasin, grande surface. J'ai commencé sur des chantiers, après j'ai fait du magasin, sûreté, dans des supérettes au tout début, dans des quartiers chauds à Montpellier.
C'est l'école de la sécurité privée, les magasins.
C'est ça. On apprend beaucoup de choses. Ouais.
Bien, ça c'est sûr. Du coup, en fait, vous avez, c'était en quelle année le bac pour en sécurité prévention ? Vous
l'avez 2009-2012.
2012. Donc vous êtes sorti directement du bac pro, vous avez eu votre carte professionnelle et après vous avez travaillé directement pour les entreprises.
Oui, c'est ça. Bah, au tout début, donc je suis allé sur Montpellier. Pour tenter un parcours supérieur sur lequel je ne m'étais pas forcément retrouvé, et bon, étant issu d'une famille modeste, j'ai dû travailler à côté, donc je travaille en sécurité, notamment la nuit, en sécurité à côté des études, hein, et bon, c'était
comme vous imaginez assez bien. Ah ouais, pas mal. Donc là, ouais, le week-end, le soir, les vacances, des choses comme
c'est
ça.
En plus de mes gardes de pompiers volontaires, donc j'avais des contrats CDD en sécurité privée. Comme je vous disais, notamment dans des supérettes dans la banlieue de Montpellier. Voilà, c'était un petit peu ma première expérience.
Vous avez eu 2-3 actions, j'imagine, assez particulières en acteur de la sécurité au sein de ces supérettes.
Oui,
enfin, surtout, souvent on travaille seul, souvent.
C'est ça, surtout souvent on travaille seul. Alors des fois on était en binôme, un à la vidéo et un dans le magasin.
Heures,
certains créneaux horaires où on était seul. Effectivement, quand vous avez 19 ans, puis j'ai pas un gabarit très impressionnant comme vous pouvez le voir contrairement à vous. Effectivement, on apprend beaucoup. C'est vraiment formateur. Voilà. Après. Avec toutes les complications qu'il peut y avoir, mais effectivement c'était une expérience assez intéressante. Et après bon, au bout d'un an, je suis revenu sur ma terre natale dans l'Aude, hein, et donc j'ai été embauché après sur un centre commercial.
L'Aude, c'est quand même moins assujetti à la délinquance que Montpellier.
Disons que c'est un territoire plus rural que l'Hérault et Montpellier en particulier.
Voilà,
donc je travaille sur Carcassonne, une ville de 50 000 habitants, mais bon, enfin, on a quand même des problématiques, bien entendu, surtout que ben, le centre commercial sur lequel je travaillais est situé donc pas loin des cités également, et d'une aire de gens du voyage, donc on ne s'ennuyait pas non plus, mais on travaillait en général à trois, avec un agent vidéo, un arrière-caisse et un entrée-sortie, donc ça permettait.
Super, ouais.
ça permettait quand même de travailler en équipe. Hein. Et puis même au tout début, quand je suis rentré, on avait même un DI qui tournait en civil dans le magasin. Donc on tournait à 4. Hein.
Ah, c'était une grosse équipe, ah oui, quand même. Ouais, et vous, vous faisiez, c'était quoi principalement, un aircaisse, enfin un peu de tout?
Oui, oui, on tournait entre l'entrée-sortie, l'arrière-caisse hein, et la vidéo. En général, on tournait sur les trois postes. Hein. Donc, c'était pour le coup, c'était assez intéressant de travailler en équipe, surtout qu'il y a une bonne cohésion de groupe. Hein. C'est important, je pense, dans notre travail.
Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais.
Donc, c'était assez stimulant, assez intéressant. On arrivait à faire de belles interpellations.
Hein. Alors, du coup, ouais, pendant 8 ans, vous avez dû en voir. Donc, principalement du magasin, on va dire, sur les 8 ans ou,
Oui, principalement du magasin avec bon j'ai pu travailler un peu sur du gardiennage aussi dans l'industriel, un peu de sécurité incendie aussi sur des plateformes logistiques d'un centre hospitalier par exemple.
Voilà, j'ai du divers... coup enfin du coup avec votre passé de sapeur-pompier volontaire, pourquoi vous n'avez pas été beaucoup dans cette filière incendie SIAP finalement, en fait, parce que même vous avez eu votre SIAP 2.
Dans mon département, donc dans l'Aude, hein, la filière incendie n'est pas très très développée parce que on n'a pas forcément de très gros ERP et donc les obligations n'imposent pas des sécurité incendie sur énormément de sites. Voilà, je pense que sur Carcassonne, vous devez avoir 3-4 sites hein, où vous avez un service de sécurité incendie. Donc après, d'accord, à terme, au bout de mes 8 ans, donc après sur un autre centre commercial, j'ai été affecté plus particulièrement à la sécurité incendie en tant que chef d'équipe après.
D'accord. Et du coup, bah, après cette expérience, cette grande expérience en sécurité privée, comment est-ce qu'on devient député du coup? Enfin, c'est quoi votre...
Ben, j'ai pas basculé directement en tant que député parce que donc j'ai arrêté la sécurité privée en 2020. Donc 2020, un peu malheureusement d'ailleurs.
Pour le Covid, non ? Le confinement, tout ça ?
Non, même pas. En fait, c'est une perte, ce qui est très courant dans notre filière, hein, une perte de marché par ma société, qui a perdu donc tous les contrats d'une grande chaîne de magasins.
D'accord.
Et donc à ce moment-là, bon, c'est un parcours assez particulier. Enfin, une perte de marché assez particulière, si vous voulez. Donc cette grande chaîne de grande distribution a décidé, oui, d'ouvrir ses magasins les dimanches en caisse automatique, hein, donc sans caissière. Et donc
c'était la nage le dimanche matin, ouais.
Voilà, c'est ça, dimanche matin et même après-midi. On était passé même en après-midi en caisse automatique, sans caissière. Et donc le client nous demandait un petit peu officieusement, mais de faire le travail de caissière, de conseiller
les clients, en fait, au paiement, etc.
Voilà, c'est ça. Et donc notre société donc de sécurité, qui était pour le coup assez sérieuse, nous demandait de rester vraiment dans le cadre de notre métier.
Avec l'épée de Damoclès de sanctions éventuelles du CNAPS, bah, s'il y avait un défaut d'équipement.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Il y avait eu un rappel à l'ordre sur un autre site quelques temps avant. Donc notre société nous a quand même donné la consigne de bien faire que de la sécurité et de ne pas dériver sur d'autres activités. Ce qui n'a pas été trop du goût du donneur d'ordre, qui a décidé de prendre une autre société dans un premier temps pour le dimanche après-midi, sans caissière, une société qui était moins regardante sur la réglementation.
Sur les obligations.
C'est ça. Et donc, on a eu, un peu par surprise d'ailleurs, le premier dimanche, des agents qui sont arrivés, qui, selon eux, étaient là pour nous apprendre le métier. Et donc toute la journée, ils ont passé leur temps à mener des caddies sur le parking, à aider les clients à remplir leur sac de course ou je ne sais quoi.
Ah ouais. C'était plutôt l'assistance à personne vers
son
partenaire
que non, c'est ça. Ils faisaient vraiment du zèle pour essayer de récupérer le marché, quoi.
Ils ont réussi du coup.
Mais ils ont réussi et ce qui est assez est curieux parce que à la fin de la journée, on a réussi à interpeller un de leurs agents pour vol quand même à la fin de cette journée-là, ce qui était assez extraordinaire. Mais du coup, un mois ou deux après, ils ont récupéré ce marché. Et comme vous pouvez l'imaginer, vu ce qui s'est passé, vu qu'on avait interpellé un de leurs agents, ça leur a pas trop plu. En plus, ils savaient qu'on était syndiqués. Et donc, ils ont profité de cette perte de marché pour ne pas nous reprendre, sachant qu'ils ont profité d'une faille un petit peu sur notre convention collective, c'est qu'on avait donc on a un contrat de travail. Normalement, comme vous le savez, en fonction si on a un certain nombre d'heures et une certaine ancienneté, ils sont obligés de reprendre.
Voilà, ouais, de 100% à 85% du personnel. Ouais.
Exactement. Ils ont profité d'une faille parce que ben on a deux, en fait, on a deux donneurs d'ordre sur ce site parce que on a le contrat galerie marchande et le contrat grande surface. Et comme on tournait, on avait des heures pour la galerie et des heures pour le magasin. On avait quasiment toute l'équipe, on n'avait pas les heures nécessaires pour être repris à temps plein.
D'accord, voilà. En fait, c'était les deux cumulés contrats, ça faisait des temps complets, on va dire, mais séparés, c'était pas en temps complet.
Exactement. Donc voilà, ils ont profité de cette faille pour ne pas du tout nous reprendre, ou alors pour nous proposer des temps partiels dans l'objectif qu'on n'accepte pas, bien sûr, et que.
Bah, j'imagine.
Voilà, donc ça a fini comme ça. Et puis,
du coup, suite à ça, vous avez arrêté la sécurité privée complètement ?
C'est ça. C'était un peu l'occasion pour moi de changer un petit peu de branche. Ça faisait quelques temps quand même que ça me taraudait un peu, par démotivation du métier et de la branche qui, à mon goût, n'évolue pas assez vite. Voilà, quand je suis rentré un peu dans le milieu de la sécurité en début 2010, on nous faisait espérer une évolution de la profession, une professionnalisation déjà. Et force est de constater que depuis l'arrivée de la carte professionnelle, qui a quand même fait évoluer le métier, il n'y a pas eu d'avancée majeure pour la profession. Et donc, voilà, j'ai un peu profité
de contraintes et très peu d'avancées, on va dire.
Donc, c'était un peu l'opportunité.
En fait, vous avez arrêté la sécurité privée pour basculer dans la formation SST ?
Alors, non, j'ai eu une période comme assistant de groupe pour les conseillers régionaux RN à la région Occitanie.
D'accord.
J'ai fait un contrat d'un an avec eux et puis après j'ai basculé dans la formation en tant que formateur indépendant dans la sécurité incendie et le secourisme et jusqu'aux élections en fait. Donc
d'accord.
C'est une période assez courte finalement et bon aujourd'hui je suis toujours formateur mais vu l'activité du mandat de député, je n'ai plus.
Ouais, ça vous consacrez à 100% à votre mandat en fait.
Oui, tout à fait.
D'accord. Du coup, en fait, donc là, j'ai compris un peu le site où vous avez travaillé. Du coup, votre démotivation liée à la sécurité privée, du coup, si on pouvait en faire trois points principaux ou deux points principaux, pourquoi avoir quitté la sécurité privée ?
Déjà, donc j'ai eu cette opportunité, mais comme je vous disais, donc j'avais une certaine démotivation, pas dans le métier en tant que tel, parce que c'est quand même un métier intéressant. J'ai rencontré quand même des personnes et des collègues dont je suis heureux d'avoir fait connaissance et d'avoir travaillé avec. On se rend compte qu'on a quand même une ressource humaine dans ce métier malgré le fait qu'il ne soit pas valorisé à la hauteur de la tâche. Hein. On a quand même.
Ouais, vous avez vu des belles personnes.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment et on s'en rend pas compte. De l'extérieur, je pense qu'on s'en rend pas compte. Hein. On est quand même dans un milieu où on a des gens de valeur et qui mériteraient d'être mieux reconnus. Et donc, les principales motivations pour moi de quitter donc ce milieu, c'est que, comme je vous disais, donc en début 2010, on nous faisait espérer donc une évolution du métier. Quand je ne parle pas du salaire, même si c'est un point crucial, mais ne serait-ce que dans les missions de ce métier-là, on voit qu'on a du retard, quoi. On voit qu'on a du retard par rapport à d'autres pays européens, par exemple, comme l'Espagne, l'Italie. Et je ne parle pas des États-Unis, enfin, du moins l'Amérique du Nord, où on a vraiment su mettre en valeur les métiers de la sécurité privée. Tout en gardant, en sachant faire la différence entre les forces publiques hein, et la sécurité. Il y a une frontière qui mérite d'être conservée. Mais je pense qu'aujourd'hui, le milieu de la sécurité privée n'est pas mis en valeur comme elle devrait l'être. On en a parlé un petit peu après les attentats de 2015. Hein, on a parlé de la sécurité privée. On s'est rendu compte que finalement, peut-être que cette branche méritait d'être développée et avait tout un intérêt, pouvait rentrer dans le schéma justement de la sécurité globale du pays. Et on se rend compte que finalement, le soufflet est retombé et on en est toujours au même point depuis plus de 10 ans. Au niveau des missions, par exemple, on n'a aucun droit supplémentaire par rapport à n'importe quel citoyen lambda en termes d'interpellation, en termes de légitime défense et j'en passe.
Et de l'armement. Prérogative spécifique. Parce que vous, du coup, c'est vous qui êtes à l'auteur de ce groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale?
C'est ça, c'est moi qui l'ai proposé parce que bon, je pense que c'est un enjeu pour les prochaines années. Ça représente quand même 180 000 personnes,
Bien sûr.
180 000 salariés quand même sur le territoire, donc c'est pas négligeable. On en parle très peu aussi de la sécurité privée et des agents de sécurité. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis on a quand même des événements majeurs dans les années à venir, la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, hein, ou les Jeux Olympiques en 2024.
D'accord. En fait, ouais, c'est enfin, des gros rendez-vous majeurs en France qui attendent la sécurité privée. Alors, du coup, ce groupe d'études, vous l'avez proposé à l'Assemblée nationale. En fait, une sorte d'agrément, c'est ça, hein? Parce qu'en fait, ça ne s'ouvre pas comme ça, des groupes d'études.
Oui, c'est ça. Alors moi, je l'ai proposé à mon groupe. Je l'ai proposé à mon groupe. On nous a demandé de faire des suggestions de groupe. Donc j'en ai proposé 3-4, hein. Sapeurs-pompiers, les risques feux de forêt et la sécurité privée. Et donc ce troisième groupe d'études a été retenu par mon groupe, qui l'a proposé ensuite en bureau de l'Assemblée, qui a également retenu cette proposition. Sachant que cette année, on a beaucoup moins de groupes d'études par rapport au mandat précédent, où il y en avait plus de 100. Là, aujourd'hui, on est tombé à 80 groupes d'études.
Et pourquoi? Enfin, c'est dû à quoi? Beaucoup moins de groupes. C'est dû à quoi?
Pardon, ça a été coupé, je vous ai pas entendu.
C'est dû à quoi beaucoup moins de groupes d'études au sein de l'Assemblée?
Il y a eu une volonté de les réduire pour ne pas surcharger les députés de groupes d'études. Hein. Voilà, je pense qu'il fallait quand même une rationalisation pour que les députés puissent participer à un maximum de réunions. C'est beaucoup de créer 200-300 groupes d'études, hein, si c'est pour que les députés ne puissent pas y participer. Voilà, autant ne pas en faire. Donc, il y a une volonté de rétrécir, de diminuer le nombre de groupes d'études pour les faire vivre plus régulièrement que ça ne l'a pu être sur les autres mandats.
Du coup, en fait, alors ce groupe d'études, quel est son objectif et c'est quoi le but de ce groupe d'études spécifique à la sécurité privée?
C'est une force de proposition, en fait, c'est un groupe de travail, de réflexion sur un thème particulier, en l'occurrence la sécurité privée. Et donc, moi, en tant que président du groupe d'études, hein, je vais avoir la tâche, hein, donc d'organiser ces réunions. Voilà, je n'ai pas encore défini de rythme particulier. Je pense qu'il y en aura environ un tous les 2 mois en moyenne. Voilà. Après, le premier objectif, ça va être dans le premier semestre, je pense, ça va être de rencontrer déjà, faire des tables rondes avec les différents acteurs que peuvent être les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, le CNAPS aussi, par exemple, hein, rencontrer les différents acteurs. Et déjà avoir une vision un peu plus globale, hein, voilà, sachant que bien sûr on est 24 députés à l'heure actuelle, hein, dans ce groupe d'études. Tout le monde ne connaît pas forcément le
la sécurité
métier
privée, quoi.
profondeur, voilà. Donc le premier objectif déjà, c'est d'avoir une vision un peu plus exhaustive, hein, faire connaître à l'ensemble du groupe un peu le monde de la sécurité privée, et ensuite faire des propositions dans un second temps. Sur le mandat, faire peut-être plusieurs propositions de loi pour faire évoluer la profession.
D'accord. Bah, du coup, ce groupe d'études, il pourrait permettre de déboucher sur peut-être une modification de loi, une proposition de loi en tout cas.
Oui, tout à fait. Tout
Alors, j'ai vu qu'en fait, dans ce groupe aussi, il y a plusieurs bords. Hein. Enfin, c'est très bien. C'est...
Oui.
Du coup, enfin, j'ai vu des socialistes, c'est ça, hein,
Oui, de tête, on a un LFI, un socialiste, hein, on a plusieurs de chez Renaissance, hein, 2 ou 3 Modem, des Républicains et après un certain nombre de députés RN. Hein, voilà, mais après, on est assez représentatif, on est assez exhaustif au niveau des.
Du coup, c'est des personnes qui ont été volontaires ou ils ont été obligés d'intégrer ces groupes d'études?
Non, ce sont des volontaires. Donc, moi, j'ai envoyé un appel à candidature aux 576 autres députés. Et donc, on en a 24 qui ont répondu favorablement à cette demande. Donc, c'est une assez bonne nouvelle parce que tous les groupes n'arrivent pas à rassembler 24 députés. On a, comme je vous dis, on a quand même 80 autres groupes. Hein. On peut rentrer dans plusieurs groupes. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que pour un premier groupe d'études comme celui-ci.
Bah, du coup, c'est un sujet qui intéresse, quoi.
C'est ça. C'est ça. S'il y a 24 députés, c'est quand même, ça intéresse quand même plutôt les députés. Donc, c'est une assez bonne nouvelle. Et donc, je pense qu'on va avoir des réflexions assez intéressantes. Et puis, bon, c'est intéressant que ce soit transpartisan, qu'on ait un peu toutes les sensibilités représentées. On va pouvoir travailler, je l'espère, dans un cadre non sectaire et assez, assez ouvert.
Du coup, ces propositions, donc vous allez rencontrer des professionnels, vous allez rencontrer le CNAPS, enfin les différentes représentations nationales liées à la sécurité privée, des donneurs d'ordre aussi, j'imagine. Du
Oui,
coup,
tout à fait.
c'est votre groupe qui va les convoquer, qui va faire des sortes de réunions ou semi-publiques ou je ne sais quoi. Comment ça va se passer?
Oui, c'est ça. Donc, dès la première réunion, bon, déjà, on va avoir la première réunion début mars. On va constituer le bureau de ce groupe d'études. Donc, il y aura des vice-présidents et un secrétaire. Et donc, le principe, après cette constitution de bureau, donc je ferai une petite allocution pour présenter mon parcours et ma vision des choses à la fois pour le monde de la sécurité et pour le fonctionnement propre de ce groupe d'études. Et je
D'accord.
proposerai, je soumettrai peut-être un calendrier prévisionnel donc à l'ensemble du groupe, hein, et je leur proposerai donc les pr des premières auditions ou des premières tables rondes pour commencer donc ce groupe d'études.
D'accord. Donc aussi bien en fait, donc les représentants des personnels, enfin du personnel,
Oui, c'est ça. Dans un premier temps, dans un premier
entreprise.
temps, oui, je pense que la première chose à faire, ça va être de rencontrer et faire éventuellement une table ronde avec les syndicats patronaux, une autre table ronde avec les syndicats de salariés. Et donc, le principe de ces auditions, en général, c'est que l'invité ou les invités font une petite intervention en début d'audition. Et après, il y a un échange, il y a des questions-réponses entre les députés et les invités.
Du coup, enfin, avec votre ancien mandat de représentant du personnel, du coup, en fait, vous êtes plutôt, on va dire, un guerrier anti-entreprise ou vous
Mais
êtes.
non, justement, alors quand je m'étais engagé dans le syndicalisme, j'avais un certain a priori sur les syndicats que j'ai quand même toujours, plus ou moins. Mais
Ouais, d'accord.
voilà, moi je suis relativement critique sur les confédérations de syndicats. Qui sont souvent politisés et qui, à mon sens, se sont un peu éloignés de l'objectif principal d'un syndicat, qui est de défendre les travailleurs et les professions. Mais j'ai quand même, quand je m'étais syndiqué, c'était parce que je voulais m'engager pour le métier et la branche de la sécurité pour essayer de tirer un peu cette profession par le haut. À mon modeste niveau donc de simple syndiqué puis de représentant du personnel déjà au sein de l'entreprise la tirer vers le haut mais j'ai foi après au petit syndicat au syndicat de branche qui sont souvent de bonne volonté et encore plus aux élus aux représentants du personnel aux délégués syndicaux je pense que là pour le coup il y a des vraies personnes motivées qui sont impliquées qui aiment leur travail qui aiment défendre des causes justes et qui avec qui c'est intéressant justement de travailler et c'est là que j'ai trouvé tout l'intérêt du syndicalisme aujourd'hui voilà donc
D'accord.
je m'étais engagé dans cette optique là. Donc j'ai été élu dans deux entreprises, parce que, pareil avec les changements de société, donc j'ai connu
Les
plusieurs
transferts,
entreprises.
quoi.
Ouais, c'est ça, les transferts qui sont réguliers dans notre profession. Donc j'ai été élu dans plusieurs entreprises, deux à ma connaissance, oui, deux. Et donc c'était une bonne
Du coup, vous
expérience.
étiez force de proposition pour aider les agents dans leur travail de
Oui,
tous les
c'est ça.
jours, pour les
Et
sanctions.
on était dans une parce que du coup j'étais élu avec d'autres collègues, mais on était dans une logique constructive. On n'était pas là pour, comme vous disiez, pour détruire le patron. Enfin, moi, je suis persuadé que le salarié a besoin du patron pour vivre et le patron a besoin du salarié. Voilà,
Et inversement, ouais.
On est tous dépendants les uns les autres. Je suis pas du tout dans une logique de lutte des classes, hein, et je pense que justement que l'intérêt, enfin, du moins ma vision du syndicalisme, c'était de travailler ensemble, d'être force de proposition et de négociation pour les salariés et le développement de l'entreprise en général. C'était l'objet de mon engagement à ce moment-là. On n'était pas là pour brûler des palettes hein, devant les entreprises. Ouais, c'est ça. Nous, on était plus là pour négocier quand il y avait un problème avec un salarié, une situation de conflit ou des situations de travail. Voilà, la première chose qu'on faisait, c'était d'aller voir le responsable d'agence ou le responsable d'exploitation ou le directeur. Ça dépendait de la situation. Et la première chose, ben, c'était de discuter, d'échanger et d'essayer de trouver des compromis autour de la table hein, de façon apaisée. Voilà, je pense que c'est et je voyais par rapport à d'autres syndicats dans ma société qui n'étaient pas dans cette même logique. Ben, on se rend compte que par le dialogue, hein, on arrive en général à faire bien plus avancer les choses que quand on est dans l'obstruction. Et je le vois d'ailleurs à l'Assemblée, ben c'est un petit peu la même logique.
Voilà. Bien sûr, oui. Parce que c'est à ça que des fois, enfin, moi aussi, dans ma vie professionnelle, j'ai quelquefois croisé des acteurs, des représentants du personnel. Effectivement, pour certains, en tout cas, c'était plus pour avoir une place sécurisée. Parce qu'en fait, on est un salarié protégé, on ne peut pas se faire licencier comme, facilement. Et on est au courant de toutes les évolutions et avant les autres.
Du coup, c'était plus. C'est ça. On se sert de la protection du mandat. Qui a un intérêt en plus quand on est dans la sécurité privée, parce qu'on ne peut pas vous muter, vous changer de site comme ça quand vous êtes salarié protégé.
Voilà, c'est beaucoup plus sécurisé, quoi.
Donc vous avez, effectivement, il y en a qui se font élire par intérêt personnel, et après vous avez, je pense, des gens de bonne volonté qui sont là vraiment pour régler les injustices et pour défendre les salariés et la profession. Voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses. Hein. Mais oui, je pense qu'on a des personnes de bonne volonté.
Je crois que c'est la première fois, depuis que moi je suis un passionné de la sécurité privée. Vous connaissez mon blog un petit peu avant en tant que représentant du personnel, c'était bien ça.
Oui.
Du coup, pour moi, c'est la première fois, sauf erreur de ma part, où il y a vraiment un ancien acteur de la sécurité privée qui s'intéresse au niveau des parlementaires. À notre profession qui est plutôt en difficulté. Et du coup, voilà, je voulais souligner votre rôle majeur finalement, puisque vous aviez les mains dans le cambouis. Et du coup, maintenant, vous pouvez être une force de proposition au niveau de l'évolution réglementaire des acteurs de la sécurité privée. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant pour notre profession, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui connaît bien le métier.
Oui, tout à fait. Vous connaissez bien, du coup. Ça a tout l'intérêt, oui, effectivement. Enfin, moi, je vois que parmi mes autres collègues, tout le monde n'a pas connu le monde du travail en règle générale. Effectivement, je pense que c'est intéressant. Enfin, j'essaie de mettre à profit donc mon expérience personnelle et professionnelle. Et dans le milieu de la sécurité, ça a tout son intérêt. Comme vous dites, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'agents de sécurité qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, je profite de cette opportunité. Je prolonge un petit peu mon activité. Je m'étais engagé dans le syndicalisme, dans la sécurité, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire évoluer le métier. Là, d'une autre façon, mais je vais essayer de vrai pour développer, essayer de développer notre branche qui le mérite amplement.
D'accord. Voilà. Bah, j'espère qu'on pourra continuer à connaître un peu les avancées, les évolutions, des tables rondes, de ce qui en ressort. Voilà, en discuter. Pourquoi pas se rencontrer avec plaisir. Voilà. Donc, je vais pas vous retenir plus que ça puisque derrière vous devez reprendre la séance.
Oui. Donc, merci beaucoup,
Monsieur le député, Monsieur Rancoul. De m'avoir permis de discuter avec vous au sujet de ce groupe d'études lié à la sécurité privée au sein de l'Assemblée nationale.
Bah écoutez, avec plaisir, et après n'hésitez pas, les comptes rendus de nos réunions seront disponibles sur le site de l'Assemblée nationale, donc vous pourrez consulter régulièrement nos travaux.
D'accord, bah merci beaucoup et à bientôt sur le podcast de la sécurité privée.
Merci à vous.
Avant le prochain podcast, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Toute l'équipe du blog 83 629 vous remercie. Et n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. À très bientôt sur le podcast de la sécurité privée.